Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni éthique ni responsable, le podcast qui s'intéresse aux expériences scientifiques et sociales un peu cocasses, voire dangereuses, voire complètement immorales. Nous sommes en février, le mois de la Saint-Valentin, et quoi de mieux que de parler d'amour aujourd'hui ? Ça nous changera des animaux morts pour la science, tiens. Les premières études sur la sexualité humaine ont débuté très tardivement, vers les années 1930. Et encore, on ne faisait alors que des études psychologiques et presque pas d'études médicales. De toute façon, on en concluait toujours que c'était la femme qui souffrait de démence ou de mélancolie, donc pourquoi s'embêter à faire des recherches ? Ce ne sera qu'une dizaine d'années plus tard que les chercheurs Alfred Kingsley, William Masters et Virginia Johnson se pencheront sur la question en profondeur. Mais ce n'est pas d'eux dont on va parler aujourd'hui, car eux, ce sont des vrais, des pionniers, des gens sérieux, qui ont fait grandement avancer la science et les mœurs de l'époque. Et ça, chez Ni éthique ni responsable, ça nous intéresse pas. Néanmoins, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la superbe série Masters of Sex, disponible sur Amazon Prime Video. Et puis aujourd'hui, on va rester sobre, on ne va pas parler de sexe de manière crue, mais de séduction et d'amour. Comment séduire ? Ce n'est clairement pas moi qui vais vous donner des conseils de séduction, nous allons donc nous référer aux spécialistes. À Hollywood en l'occurrence. On a les spécialistes qu'on mérite, que voulez-vous. Nous sommes dans les années 70, en Amérique du Nord, et comment séduit-on là-bas si on en croit le cinéma ? Eh bien justement, on va au cinéma ou dans un drive-in avec notre future conquête. Mais on regarde quoi comme film ? C'est le moment où vous faites appel à vos meilleurs clichés. Oui, voilà, on va voir un film d'horreur en espérant que la belle et tendre sursaute à la vue du monstre se rapproche délicatement jusqu'à ce que vous puissiez enrouler votre bras autour d'elle. Et hop, l'affaire est dans le sac. Bon, ça, c'est le cliché au cinéma. Mais dans la vraie vie, est-ce que ça marche de la même façon ? Laissez-moi vous parler de Donald J. Dutton et Arthur P. Aaron.
One man crazy. Very sane spectators.
Donald G. Dutton est professeur de psychologie d'abord à l'université de Vancouver, puis à l'université de British Columbia au Canada. Ses recherches se concentrent surtout sur le couple et plus particulièrement sur la violence au sein du couple, la violence domestique, les personnalités abusives, etc. Arthur P. Aaron, lui, est professeur de psychologie à l'université d'État de New York et son champ de recherche est complètement à l'opposé de son collègue. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'amour. Et comment le trouver ? Il fera des recherches sur l'amour de soi et la prise de confiance, sur comment trouver le grand amour, et il répondra à la question « grand mariage ou mariage en petit comité ?» Non mais c'est important ces questions-là aussi. Donald et Arthur vont, en 1974, se poser une nouvelle question. Est-ce que le fait de se sentir en danger peut nous amener à une certaine attraction sexuelle ? Plusieurs études précédentes ont démontré que les émotions fortes peuvent mener à une certaine excitation sexuelle. La douleur, la haine et l'agressivité font aussi partie de ces émotions qui ont pu mener à une envie de coït. Par exemple, en 1965, Barclay et Haber ont mené une expérience avec des étudiants. Ils les ont placés dans une classe avec leur professeur. Ce dernier devait les accabler vicieusement sous prétexte qu'ils avaient tous lamentablement raté leur examen. Grâce à un thematic apperception test, qui consiste à donner une image représentant une scène ambiguë au sujet testé et de lui demander de la décrire, les deux chercheurs ont noté qu'après avoir été mis plus bas que terre par leur professeur, les étudiants ressentaient autant de sentiments agressifs que d'attraction sexuelle. Plusieurs autres expériences de ce genre ont été menées, notamment avec des professeurs de genres différents, hommes et femmes, et en utilisant des tests physiologiques, en l'occurrence des tests d'urine, pour mesurer l'excitation sexuelle des étudiants. Si on écoute Freud, l'homme est excité sexuellement suite à une sombre colère en héritage de son passé préhistorique, ce dernier devant dominer physiquement sa partenaire afin de la... Enfin, vous avez compris quoi. Mais Freud a aussi dit pas mal d'âneries, et plusieurs études ont démontré plus tard que ce n'était pas seulement la colère qui menait à une excitation, mais toute émotion forte. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donald et Arthur posaient la théorie qu'une femme attrayante était perçue comme encore plus attrayante par les hommes qui la rencontraient alors qu'ils ressentaient une émotion forte, ici de la peur, que par les hommes qui ne ressentaient pas spécialement d'émotions fortes à ce moment-là. L'expérience s'est intéressée à des hommes qui traversaient un pont, on y reviendra plus tard sur ce pont, qui avait entre 18 et 35 ans et qui n'était pas accompagné par une femme évidemment. L'expérience fut menée sur deux ponts au-dessus de la rivière Capilano au nord de Vancouver au Canada. Le premier pont était le pont suspendu de Capilano, fait uniquement de bois et de cordes, long de 140 mètres et à une hauteur de 70 mètres au-dessus de la rivière. Si vous voulez vous en faire une image mentale, c'est le genre de pont de corde qu'on retrouve dans les westerns ou dans les cartoons et qui finissent inexorablement par être coupés d'un côté et le héros se retrouve suspendu au bout d'une planche. Bref, pas un pont rassurant quoi. Justement, ce pont a été choisi pour ça. Il tangue, il vrille, il bouge dans tous les sens au moindre coup de vent, il donne l'impression qu'on peut tomber à tout moment. Pour le groupe de contrôle, un second pont fut choisi. C'est un pont en bois dur, seulement à une hauteur d'environ 3 mètres. Ce pont-là ne bouge pas d'un pouce, il a des rambardes bien solides, il est donc tout à fait rassurant. Dans les deux cas, à chaque fois qu'un homme se trouvait sur le pont, une femme complice les abordait. Elle leur expliquait alors qu'elle conduisait une expérience pour ses études de psychologie et qu'elle étudiait le lien entre les attractions touristiques, comme ce pont, et l'expression créative. Elle leur demandait alors s'ils pourraient lui accorder un peu de temps pour remplir un court questionnaire, leur âge, leur niveau d'études, s'ils étaient déjà venus sur ce pont, etc. Sur la seconde page du questionnaire, elle leur demandait d'écrire une courte histoire en s'inspirant d'une image montrant une femme se couvrant le visage d'une main et tendant l'autre. C'est le fameux test TAT, Thematic Apperception Test, dont on a parlé au début. L'image a été spécialement choisie en ce qu'elle n'avait aucune connotation sexuelle. À la fin, les textes étaient classés sur un barème pour mesurer leur niveau de sexualité. Il s'agit d'un score de 1 à 5, où 1 correspond à aucun contenu sexuel, 2 s'il est mentionné la notion d'ami, 3 s'il est mentionné un baiser, 4 s'il est mentionné la notion d'amante, et 5 s'il y a acte sexuel. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Une fois que l'homme a fini de remplir le questionnaire, la jeune femme leur tendait son numéro de téléphone s'il voulait la joindre pour avoir plus de détails sur son projet, par exemple. La jeune femme donnait un nom différent, Gloria pour le groupe test et Donna pour le groupe de contrôle afin de les différencier lorsqu'ils appelleraient. La même expérience a été conduite une seconde fois, mais avec un homme dans le rôle de l'intervieweur. Alors, qu'en a-t-il résulté ? Tout d'abord, il a été demandé aux hommes sur les deux ponts à quel point ils avaient peur de traverser le pont afin de vérifier l'intégrité de l'étude. Sur le pont bancal, ils n'étaient effectivement pas rassurés du tout, alors que sur le pont de contrôle, ils ne ressentaient presque aucune peur. Ensuite, au niveau du test TAT, une fois retirés les tests inutilisables car incomplets ou écrits dans une langue étrangère, il restait 38 questionnaires, dont 20 écrits sur le pont qui tangue et 18 provenant du groupe de contrôle. Sur le groupe test, le score de sexualité, on l'appellera comme ça, est de 2,47. Je rappelle que le score de 2 correspond à la notion d'amitié et à 3 à un baiser. Pour le groupe de contrôle, le score est de 1,41. Le groupe test est donc plus excité que le groupe de contrôle, même si les résultats restent assez prudes. Mais pour expliquer cela, il faut rappeler que nous sommes en 1974 et qu'il est tout de même très amoral de décrire une scène crue à une jeune femme que vous ne connaissez pas et qui vous arrête sur un pont. Les petites mamselles ne sont pas encore répandues et c'est tant mieux. Concernant les deux groupes qui ont été interrogés par un homme, le groupe test a obtenu un score de 0,80 et le groupe de contrôle un score de 0,61. Le motif observé dans les groupes interrogés par une femme ne se retrouve donc pas dans les groupes interrogés par un homme. Qu'en est-il du moment où Madame a lâché son 06 ? Dans le groupe test, 18 des 23 sujets ont accepté de prendre le numéro de téléphone de la jeune femme. Dans le groupe de contrôle, 16 sur 22 ont accepté. Pour des raisons scientifiques, bien évidemment. Mais là où on peut mesurer la véritable attraction sexuelle, c'est en observant combien de ces gentlemen ont effectivement téléphoné pour, bien évidemment, savoir où en était son étude et rien de plus. Dans le groupe test, 9 hommes sur 18 ont téléphoné, contre 2 sur 16 dans le groupe de contrôle. Combiné avec le test TAT, il est donc conclu qu'il y a bien un lien entre la peur du pont qui tangue et l'attractivité ressentie envers la jeune femme. Et personnellement, j'en conclus qu'il devait y avoir une grosse dose de déception de la part des hommes à qui on a expliqué qu'ils n'auraient pas de rencard ce soir. Mais cette expérience pose un souci d'objectivité de par sa localisation géographique. Le pont suspendu de Capilano est une attraction touristique très connue. D'ailleurs, vous pouvez toujours y aller, c'est payant, mais qui sait, vous pourriez y rencontrer l'amour de votre vie. Ce pont attire donc plutôt un public touriste, moins à même d'être intéressé par une relation avec quelqu'un résidant localement, ayant aussi moins la possibilité de lui téléphoner. En revanche, le pont en dur est surtout utilisé par les gens habitant dans la région qui l'utilisent quotidiennement. De plus, les personnes utilisant le pont suspendu sont plus susceptibles d'aimer les sensations fortes, puisqu'ils sont là pour ça, et donc leur trait de caractère peut être plus enclin à appeler une inconnue sur un coup de tête. Afin de rejeter les paramètres extérieurs qui auraient pu fausser les résultats de cette première expérience, une seconde mouture du projet fut lancée. Les sujets étaient ciblés sous les mêmes critères que lors de la première expérience. Cette fois-ci, on utilisera le même pont pour les deux groupes, et il s'agira toujours du pont suspendu. Mais pour différencier le groupe test et le groupe de contrôle sera interrogé 10 minutes après avoir traversé le pont, tandis que le groupe test sera interrogé directement sur le pont. Cette fois-ci, on change de femme complice et aucun test ne sera fait avec un homme en tant qu'intervieweur. De plus, la femme ne connaît pas le vrai but de l'expérience et ne peut donc pas être en mesure de fausser les résultats en dragouillant un peu. Cette fois-ci, le groupe test obtint un score de 2,99 et le groupe de contrôle un score de 1,92, vérifiant de nouveau l'hypothèse de départ. De la même façon, dans le groupe test, 13 hommes sur 20 ont appelé la dame, contre 7 sur 23 dans le groupe contrôle. La deuxième expérience confirme donc les résultats de la première. Bon, les ponts c'est bien, mais si on leur faisait peur avec de l'électricité? C'est vachement plus fun! Cette troisième expérience se fera donc en laboratoire à l'Université de Colombie-Britannique. 18 étudiants volontaires ont pris part à l'expérience. Les sujets entraient dans une salle de recherche remplie d'équipements électriques, des câbles, des électrodes et des appareils. Première filouterie, le chercheur accueille le sujet en lui demandant s'il n'avait pas croisé sur le chemin quelqu'un qui cherchait la salle. Lorsque l'étudiant répondait évidemment non, le chercheur le laissait seul pour partir à la recherche de la personne imaginaire en lui laissant des copies d'anciennes recherches faites sur les effets des électrocutions pour comprendre la douleur en général. Et il le laissait mariner avec ça pendant un moment. Le chercheur revenait ensuite dans la salle avec la personne qu'il cherchait, en vérité une très belle femme complice de l'expérience. La femme retire son manteau et vient s'asseoir près du sujet. Le chercheur leur expliquait ensuite le soi-disant but de l'expérience sur le lien entre électrocution et douleur. À la fin de son speech, il leur demandait s'ils voulaient partir. Tous ont décidé de rester courageusement. Le chercheur leur expliqua ensuite qu'il y aurait deux niveaux de choc électrique. Un qui serait douloureux et un qui s'apparenterait plus à un chatouillement, que certains pourraient même trouver agréable. Pour savoir quel choc ils allaient recevoir, les deux joueraient à pile ou face. Ensuite, le chercheur leur dit ceci. « Je vais prendre quelques minutes pour installer l'équipement. Pendant ce temps, j'aimerais avoir des informations sur ce que vous ressentez actuellement et vos réactions, puisque ceci peut avoir des conséquences sur le résultat des tests. J'aimerais que vous remplissiez un questionnaire afin de me fournir ces informations. » Nous avons deux espaces séparés au fond du couloir où vous pourrez faire ça. Vous serez en privé et ne serez pas dérangé. Je peux installer l'équipement. » Le questionnaire se décomposait en trois parties. Leur ressenti face à l'expérience qui leur avait été expliquée, leur sentiment face à leur collègue cobaye, la très belle jeune femme donc, et le test TAT en troisième partie. Sans surprise, les sujets qui devaient recevoir le gros choc étaient bien plus anxieux que ceux qui devaient recevoir le petit coup d'électricité. Néanmoins, parmi les étudiants qui devaient recevoir le gros choc, ceux accompagnés de la jeune femme ressentaient moins d'inquiétude que ceux du groupe test qui étaient accompagnés de deux autres étudiants masculins. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, les réponses aux questions « à quel point voudriez-vous proposer un rendez-vous à la jeune femme » et « à quel point voudriez-vous l'embrasser » ne sont pas impactées selon lequel des deux prendra le gros choc, démentant la théorie que la demoiselle en détresse serait plus attirante pour les hommes. Restent les résultats du test TAT. On observe une imagerie sexuelle plus importante sur les hommes qui s'attendent à recevoir un choc important, mais seulement si la femme à côté d'eux va aussi recevoir un choc important. Dans les autres configurations, on ne retrouve pas d'impact notoire sur l'imagerie sexuelle. Bien évidemment, les sujets n'ont pas vraiment été électrocutés à la fin de la session. On se gardera ça pour un autre épisode. aujourd'hui, c'est que du love. Alors est-ce que cette expérience était bien nécessaire? Eh bien maintenant, vous savez que pour séduire, il faut emmener votre crush sur un pont suspendu bien dangereux ou le ou la menacer de vous électrocuter tous les deux. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. C'est la fin de cet épisode et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à me laisser 5 étoiles et les commentaires font toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire ni éthique ni responsable.